France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Pourquoi les jardins contribuent-ils à notre bonheur? C'est notre thème ce matin avec le hors-série de Philosophie Magazine, actuellement en kiosque. Que l'on soit jardinier ou usager des parcs et jardins, nous verrons pourquoi ces lieux merveilleux contribuent à notre joie, à notre félicité, à notre bien-être. Bref, pourquoi ils nous rendent tout simplement heureux. Comme le dit si bien l'écrivain Eric Orsenna, le jardin c'est de la philosophie rendue visible. Nos invités partagent leurs réflexions et attendent vos expériences spirituelles ou philosophiques du jardin. Racontez-nous ce que ces lieux représentent pour vous. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebéi.
Moi je trouve que ça donne surtout un rapport à la liberté au fond. Quand on est attentif au vivant autour de soi, on retrouve aussi du vivant en soi. Et dans cet échange-là, on retrouve aussi une forme presque d'autonomie par rapport aux grandes questions politiques, par rapport au tracas du monde, quoi. Et ça donne beaucoup de force, ce que Montaigne appelle l'arrière-boutique, cette cabane, si vous voulez, où on peut entretenir un dialogue, une conversation, même tout seul, mais avec les plantes ou avec les arbres. Voilà.
L'écrivain et philosophe Gaspard Koenig dans l'heure philo de notre chère Patricia Martin en février 2025. Bonjour Cédric Angealbert.
Bonjour Ali.
Vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine, à la une du hors-série actuellement en kiosque. Cultiver son jardin au sens philosophique bien sûr, avec une magnifique couverture signée Catherine Meurice. L'une des phrases les plus célèbres de la littérature et de la philosophie, c'est dans le Candide de Voltaire, il faut cultiver notre jardin.
Absolument, ouais. Il faut cultiver notre jardin, pas seulement d'un point de vue égoïste et personnel, mais c'est aussi, on le verra ensemble, d'un point de vue politique, philosophique, existentiel, écologique. Enfin, le jardin déploie toutes ces facettes-là.
Bonjour Martine Lafont.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie, vous avez notamment publié en 2019 chez Flammarion « Cultiver son petit jardin intérieur » sur cette façon de cultiver son jardin d'un point de vue existentiel et philosophique.
Oui, c'est être présent. Quand on est au jardin, on est présent. On est présent à ce qui se passe, on peut le regarder, on peut l'observer. Mmh. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est vivant. Mmh. Et aussi, on le verra certainement, il y a le silence. Le silence qui est une absence de bruit, pas une absence de son, mais qui permet aussi de se reconnecter à soi-même.
Bonjour Éric Lenoir.
Bonjour Ali.
Vous êtes paysagiste et pépiniériste. Vous avez publié en 2021 le grand traité du jardin punk. Quelle est la philosophie de ce jardin punk en quelques mots? On y reviendra tout à l'heure. Vous ne le cultivez pas beaucoup, votre jardin punk, Éric Lenoir?
C'est comment faire en faisant le moins possible, ce qui n'est pas forcément évident quand on parle de jardin.
Et quelle est la philosophie de ce jardin punk?
Bah laisser s'exprimer un maximum les choses qui s'expriment très très bien sans nous et faire en sorte d'y trouver sa place plutôt que d'imposer sa place à tout le reste.
Bonjour Sonia Ferchak.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Vous êtes essayiste, romancière. Vous aviez publié en 2024 chez Philosophie Magazine Éditeur un très bel éloge de La Haye. Et vous le dites dans le Philomag où vous êtes interviewé, tous les jardiniers que vous connaissez font le même constat. Un jardin, ça fait un bien fou contre la morosité, l'angoisse ou encore la colère.
Oui, je trouve que le jardin, c'est déjà tout ce qui a été dit, c'est se coltiner la puissance de la vie, c'est à la fois agir et puis en même temps être surpris par ce qui peut arriver. Quand Amélie Perrier disait à l'échelle de son balcon, c'est vrai que découvrir un gland qui a germé et qui a un bébé chêne qui pousse à côté d'un géranium, c'est toujours un émerveillement.
Alors ce qui est extraordinaire, Martine Lafont, avec le jardin, qu'on y jardine ou qu'on y flâne, ou qu'on s'y assoit tout simplement, c'est ce va-et-vient permanent entre notre vie intérieure et la vie extérieure, entre le visible et l'invisible.
Oui. C'est en fait souvent les poètes, surtout au XIXe siècle, ont dit que le jardin avait une âme. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a un souffle. Et lorsqu'on dit je vais reprendre souffle, c'est aussi reprendre vie. Donc cet espace entre l'intérieur de soi-même et l'extérieur du jardin ne font plus qu'un. C'est cette coïncidence dont on va parler aussi Baudelaire, évidemment, les correspondances. Et ça, c'est ça qui fait un bien fou, finalement. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez être la nature, vous pouvez être votre jardin, vous pouvez être ses sons, ses odeurs, ses parfums. Enfin, et beaucoup de peintres aussi vont dire, quand j'ai peint, j'étais l'arbre, j'étais l'eau, j'étais tout ce qui se passe et qui est donné au jardin en surabondance. Mmh. C'est ce que disait aussi un gland pour germer, il y en a 10 000 qui vont arriver. Et donc, cette surabondance, elle nous étonne. Et en même temps, elle nous oblige à voir tout ce qui, dans notre humanité, va être possible comme don aussi.
Sonia
C'est
Fairchak.
Ça qui est intéressant.
Sonia Fairchak.
Oui, je trouve que quand on est au jardin, on est en permanence spectateur de ce qui croît, de ce qui s'y détruit aussi, de ce qui pousse. Et il y a un équilibre qui bouge. C'est-à-dire que c'est à la fois la continuité, on est ancré au jardin, et puis en même temps, tout est en mouvement autour de soi. Ce que j'aime, c'est cette Martine Lafont parlait de correspondance, et c'est vrai qu'on est au jardin, mais aussi on est disposé. Il y a une forme de passivité active ou d'activité passive. C'est très doux le jardin. C'est à la fois ravigotant et en même temps réconfortant. Il y a tout ça, tout cet extraordinaire, et on regarde autrement. Parce que si je reprends l'idée du balcon que j'aime bien, parce que ça correspond à beaucoup de gens. On n'a pas tous un parc à disposition.
C'est ce que disait Amélie Perrier avant l'émission.
Oui, pardon, elle disait qu'elle n'avait qu'un balcon, mais sur un balcon, il peut se passer des choses. Et c'est vrai que le jardin nous amène à regarder autrement ce qui nous entoure. Ça enrichit notre rapport au monde.
Cédric Angelbert.
Oui, Sonia Fairchak disait qu'il se passe des choses dans le jardin. En réalité, il se passe même toutes les choses. C'est la définition qu'en donne Michel Foucault, disant que le jardin, finalement, c'est le microcosme dans lequel est réuni le macrocosme. Il emploie un mot pour ça face aux étudiants d'architecture dans les années 1960. Il emploie le mot d'hétérotopie. Alors, en grec, ça veut dire hétéro, c'est autre, l'ailleurs. Et le topos, le lieu. Donc, c'est le lieu ailleurs qui est concentré dans un espace restreint. Alors, on sait qu'il y avait autrefois une fontaine au milieu, que le jardin a été divisé en 4 parcelles, c'est un lieu clos, mais ce lieu clos est une ouverture sur le monde.
Alors depuis la nuit des temps, Martine Lafont, de nombreuses traditions spirituelles, croyances et mythologies mettent en scène des jardins merveilleux, de l'épopée de Gilgamesh à la Bible, en passant par la mythologie grecque.
Ah oui, c'est cette notion de paradis ou d'un jardin où on va trouver quelque chose qui vous surprend tellement qu'on va pouvoir, alors surtout pour Gilgamesh, on va pouvoir retrouver le chemin de soi-même quelque part. Et donc ce jardin qui est perdu, beaucoup disent aussi que c'est un jardin qui est en avant de nous. Et qu'il n'est pas perdu, mais qu'au contraire, il est à construire. Et que, en fait, même si toutes les mythologies parlent d'un jardin perdu ou d'un jardin justement qui a été perdu à cause de l'homme, il y a toujours un homme juste qui va sauver le monde. Et c'est pour ça qu'on peut dire que finalement, le jardin d'Éden, le paradis, il est à créer. Le monde est inachevé, le jardin est inachevé. Et nous-mêmes, nous sommes inachevés, mais nous devons contribuer à l'achèvement de ce du monde, quelque part.
Cédric Angelbert, l'une des plus célèbres écoles philosophiques, c'est le jardin d'Épicure, hein, en 306 avant notre ère. À l'âge de 35 ans, Épicure achète un terrain dans les faubourgs d'Athènes et il établit son école. Et loin d'être épicurien au sens commun d'hédoniste, c'était un jardin plutôt monacal.
Absolument, et en réalité, on le voit avec les jardins des philosophes en général, parce qu'il y en a plusieurs, mais Épicure, c'est peut-être le plus célèbre, qui a donné le nom de son école. Et effectivement, l'épicurisme n'est pas la débauche, on ne se vautre pas dans les plaisirs, c'est tout l'inverse. C'est une économie des plaisirs, dans le sens où le jardin est le lieu en dehors des fracas de la ville, de l'effervescence, du trop de la ville. Le jardin est au contraire cet espace de retrait propice à l'échange, propice à la réflexion, propice à finalement à philosopher proprement dit.
Martine Lafont.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on se retirait pour réfléchir, c'est-à-dire pour trouver le juste milieu ou comment ne pas souffrir, la tranquillité de l'âme. Et c'est intéressant de voir que justement ils avaient pris cette démarche-là, soit de marcher dans le jardin sous les oliviers, etc., pour essayer de trouver quelque chose qui ferait que la vie serait supportable ou qu'on serait un mieux-être. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que, comme on le disait tout à l'heure, le jardin, c'est certes un microcosme, mais l'homme aussi est un microcosme. Donc, il y a un emboîtement. Et cet emboîtement, s'il est brisé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'harmonie du tout qui est brisé. Donc, les médiévistes l'avaient bien compris, et c'est vrai qu'ils ont refait des jardins, justement comme les quatre fleuves qui arrosaient le paradis, etc., parce que ça avait une symbolique, parce que dans le nombre 4, on trouvait la lettre hébraïque, le nom de Yahvé en hébreu. Donc, tout ça avait un sens. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est toute la mythologie et la symbolique qui permet, même si on ne l'aperçoit pas, même si on ne la voit pas, qui nous imprègne d'une certaine façon.
Cédric Angelbert.
Oui, ce qui est assez beau dans les jardins comme objet philosophique, c'est que c'est une concrétisation, une matérialisation des philosophies. Quand on parle d'Épicure, alors c'est un peu anachronique de le dire comme ça, mais on peut dire que c'est une forme de soin du monde et de soin de soi. Chez Platon, c'est le lieu de la marche et du débat, de la conversation.
Il implante d'ailleurs son académie dans le jardin d'un gymnase.
Absolument. Donc, le lien au corps, le lien au fait qu'on puisse marcher, déambuler pour philosopher, ça correspond à une forme de philosophie platonicienne. Cicéron, l'osium, l'idée que finalement c'est le lieu de la retraite, du retrait de la vie politique et qui permet de cultiver pour le coup les idées philosophiques, la réflexion plus personnelle. C'est un lieu du loisir, mais pas le loisir comme on l'entend aujourd'hui, le loisir de l'homme studieux en quelque sorte.
Ça, et c'est l'osium. Hein.
L'osium, tout à fait, c'est le terme latin pour le dire. Ou puis finalement, Diderot qui fera du jardin l'espace d'une forme de liberté, l'espace sinon de l'ensauvagement, au moins d'une certaine forme d'idée de sauvage qui correspond à une philosophie plus libre, plus déliée, qui est celle de Diderot.
Sonia Ferchak.
Oui, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on vient de dire sur la fonction du jardin pour Épicure, elle prend une dimension très particulière aujourd'hui parce qu'on est dans une période de grand chaos, et que ce soit le dérèglement climatique ou ce que cite c'est Octave Larmagnac, Matron, qui dans le hors-série se pose la question comment être heureux dans un monde si violent. Et finalement, parce qu'il est toujours en devenir, comme vient de dire Martine Lafont, le jardin offre un avenir. Il permet de croire en l'avenir, comme il est dit dans l'édito de Philosophie Magazine. Et donc, c'est même cultiver l'avenir. Et du coup, je trouve que peut-être que le fait que tant de gens se mettent à jardiner aujourd'hui, c'est aussi pour ressentir à la fois l'ancrage, on fait partie d'un tout, en même temps la possibilité d'agir et de créer, de se créer un avenir, d'agir tout simplement.
Bonjour Eric Thibiot.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre toute dernière petite mythologie d'un objet du quotidien de la saison ?
Eh bien justement, je vais faire un florilège, je vais parler de transplanteurs, de débroussailleuses, de tronçonneuses, et un hommage à Clint Eastwood, le dernier grand géant le dernier grand jardinier, mais pourrait-on dire, du cinéma, qui vient de fêter ses 95 ans.
Ali Rebéi.
Oh, putain ! Oh, la vache !
Grand bien vous fasse.
Non mais faut me dompter cette nature-là, c'est hyper dangereux.
Sur France Inter.
Et ce matin, pourquoi les jardins contribuent à notre bonheur, qu'on y jardine ou qu'on les contemple, avec la philosophe Martine Lafont, l'écrivaine Sonia Ferchak, le paysagiste Éric Lenoir et avec Cédric Angelbert, rédacteur en chef à Philosophie Magazine, à l'occasion de la sortie du hors-série Cultiver son jardin. Alors Martine Lafont, le jardin invite à des méditations plus ou moins métaphysiques. En sanskrit et en tibétain, l'étymologie du mot méditer signifie aussi cultiver. Pourquoi est-ce que le jardin invite si naturellement à la méditation ?
Alors, pourquoi ? C'est compliqué de le dire, parce que effectivement, ça, c'est l'intériorité de chacun. Mais c'est vrai qu'on constate que tous les mystiques parle du jardin, et surtout, bien sûr, saint Augustin qui a cette révélation du christianisme dans un jardin à Milan, parce que certainement, il y a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on revient à soi-même dans une présence à soi. Et Montaigne le disait très bien, c'est-à-dire que méditer, c'est un peu ça, c'est être présent à soi-même. Et il disait, quand je danse, quand je chante, quand je me promène dans le verger. Et le fait de pouvoir avoir ce temps-là, cet espace-là, pour revenir sans être perturbé, justement, par la violence du monde, et être à soi-même, c'est un tout petit temps. Ça demande beaucoup d'attention, certainement. Ça demande ce qu'on appelle la pleine conscience, mais quelque chose de difficile. Mais le jardin, il permet ça. Pourquoi il y a eu des jardins sacrés, même ? Parce que justement, il y avait ce besoin de se dire, on va dans des espaces qui sont sacrés, aller au-delà de soi-même, trouver quelque chose en avant de soi. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le jardin, parce que ça va permettre.
Le jardin invite à la méditation, mais aussi peut-être surtout à la rêverie.
Alors évidemment, parce que vous parliez du bonheur, est-ce que le jardin nous procure du bonheur ? Le philosophe Kant disait, finalement, le bonheur, ce n'est pas un idéal de la raison, c'est un idéal de l'imagination. Donc c'est vrai que le jardin, par exemple pour des gens comme Gaston Bachelard, ça va être une rêverie poétique constante. Donc ça va être quelque chose où on va prendre chacun des éléments pour pouvoir rêver. Et si on prend l'air, le vent, et que tout le monde va parler de ça. Et sur un balcon, c'est pareil. C'est les sensations qui sont intéressantes, parce que les sensations, elles font partie de l'imaginaire. Donc la rêverie poétique au jardin, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. J'étais coincée sur le périphérique ce matin et je me suis dit, oui, c'est vrai, le jardin nous procure beaucoup de bonheur.
Éric Lenoir, paysagiste et promoteur du jardin punk.
Oui, c'est une partie de la réalité tout ça, parce que le jardin, on ne peut pas le limiter à uniquement la rêverie, la poétique et l'introspection. C'est aussi un endroit où, excusez-moi le terme, mais on peut foutre le bordel. Et on peut se retrouver à plein de monde pour refaire le monde, notamment, parce que c'est l'un des outils aussi pour comprendre sa place dans l'écosystème. Alors d'un point de vue philosophique, c'est hyper intéressant ça. De se dire, on est dans un écosystème, on est un grand holobionte, on vit dans un holobionte, la notion d'écosystème un peu étendue. Et en même temps, ça peut devenir une démonstration politique, un jardin. Quand on est à 80 personnes en train de redécouvrir des nouvelles façons de faire, tout ça, en fait, ça va être selon les fonctions qu'on va y avoir accordées. Si Bachelard, il trouve un sanctuaire, c'est peut-être réel, mais d'autres personnes vont y trouver avant tout un endroit nourricier. Et leur façon d'exister, et leur rapport au monde va être surtout dicté par le fait d'être capable de faire pousser sa nourriture. Donc le jardin, il ne faudra pas non plus limiter au jardin d'agrément, en fait, qui est souvent l'écueil. Étant donné que le jardin originel, entre guillemets, si on va vraiment vers l'histoire, l'archéologie et tout ce qui va avec, c'est le jardin idéalisé, le paradis. On a aussi toutes sortes d'autres formes de jardins qui sont créés au fil du temps et qui ont d'autres fonctions et qui peuvent les cumuler.
Vous citiez Gaston Bachelard, l'auteur notamment de la poétique de l'espace. Éric Libiot.
Oui, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport très particulier au temps ? Et on cite Bachelard qui a aussi écrit sur le temps, parce que le temps passe, mais oui. Les plantes poussent, les fleurs vivent un temps qu'on ne remarque pas, qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette dualité, ce paradoxe peut-être, cette contradiction entre le temps qui passe alors qu'on ne le voit pas ?
Et Isabelle va dans votre sens, Éric, dans un monde où nous avons le sentiment que ça passe trop vite, la temporalité du jardin nous permet de retrouver de la lenteur. Sonia Fertschak.
Ah oui, je suis complètement d'accord avec Isabelle et avec Éric aussi sur l'aspect politique. C'est que par exemple, en emmenant les enfants au jardin à l'automne, après l'été, on leur fait planter des bulbes et donc on enfouit ces bulbes du tulipe, de crocus, etc. Les bulbes d'automne, on les enfouit dans la terre et puis on les oublie. Et au printemps, ils vont pointer leur doigt vert et puis ça va donner ses fleurs, ses crocosmias, ses tulipes, etc. Et ça, c'est une façon de vivre l'attente, c'est-à-dire qu'on vit à la fois l'espace et le temps au jardin. Et il y a quelque chose de à la fois très concret, c'est-à-dire que ces bulbes vont donner des plantes, et je trouve que pour les enfants, c'est très important de leur apprendre à regarder, à sentir. Par exemple, en ce moment, tous les troènes sont en fleurs, ça sent extra, c'est une odeur très particulière, les troènes, ça sent très bon. Donc, apprendre aux enfants ce rapport au monde très ancré et où on apprend à la fois le rapport à l'espace, on regarde autour de soi, on écoute les oiseaux, et en même temps, ce rapport au temps, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est très lent le temps du jardin. Il faut être patient dans un jardin. Et ça, c'est de se rendre compte que ça paye, notre patience paye, c'est extraordinaire.
Martine Lafont.
Oui, je voulais dire, oui, c'est vrai, il y a le temps cyclique des saisons, mais il y a aussi le temps opportun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas planter n'importe quand. C'est justement parler de l'automne pour planter les bulbes qui vont arriver au printemps. Et si vous, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on peut pas faire n'importe quoi. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Eric. C'est vrai que les jardins, pour beaucoup, étaient des jardins nourriciers et que c'était pas des jardins d'ornement. Et que petit à petit, effectivement, ça a changé, cette vision-là a changé pour arriver à des jardins maintenant qui laissent un petit coin au potager et qui sont aussi des jardins de fleurs.
Éric Lenoir.
Oui, oui, je voulais revenir sur cette notion de temps qui est absolument essentielle. En fait, le jardin est l'un des endroits où on a reconnecté l'humain au temps, dans un monde qui est ultra accéléré tout le temps. Et se projeter dans l'avenir est quasiment impossible, en fait, pour des jeunes générations s'ils n'ont pas accès à ce genre d'endroit. Il y a un proverbe japonais qui est fabuleux qui dit « Si la lueur des cerisiers sur la colline ne durait pas qu'un court moment, peut-être ne serait-elle pas si chère à nos cœurs. » Et ça, la frustration et le bonheur, ce sont des choses qui vont vraiment ensemble.
Cédric Angelbert.
Oui, effectivement. Bah, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de méditation, du temps qui passe, de la conscience du temps qui passe à travers la croissance de la végétation ou la mort de la végétation. Parfois, en fait, un jardin, c'est aussi fait d'échecs, c'est fait de fleurs qui meurent, d'arbustes qu'on n'a pas réussi à entretenir. Ça invite finalement à l'humilité. Alors, c'est intéressant de voir que le terme humilité a étymologiquement très lien avec l'humus, la terre. Donc, c'est vraiment à ça que nous rapporte le jardin, que ce soit le grand jardin de nos maisons ou le petit jardin de nos balcons, le jardin suspendu.
Et nous accueillons Philippe Collignon. Bonjour Philippe Collignon.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, chroniqueur à Télématin et auteur de nombreux livres, notamment chez First, Le potager pour les nuls par exemple. Pourquoi Philippe Collignon, vous qui arpentez des jardins tout au long de la journée, dans votre vie professionnelle et personnelle évidemment, pourquoi est-ce que le jardin vous rend si heureux? Pourquoi il contribue à votre bonheur? Expliquez-nous Philippe Collignon.
Moi, je pense que le jardin, c'est un peu la dernière frontière contre la folie un peu du monde moderne. Alors pour moi, tout jeune, ça a été un psy, un coach de vie, un temple depuis un demi-siècle. Hein. Et puis lui, il ne facture pas 70 euros la demi-heure. Alors bien sûr, certains diront, attention, jardiner, c'est pas relaxant, c'est crevant. Bah, tout à fait. C'est précisément pour ça que ça fait du bien, parce que c'est crevant. Ça nous vide la tête, ça nous vide le corps, et c'est vraiment très bien. Et puis, on transpire au jardin. On transpire pas forcément que face à un PowerPoint. On ne s'agenouille pas que par soumission sociale, mais par exemple pour arracher une herbe rebelle qui a décidé, sans votre avis, de coloniser un peu toute la plate-bande. On élimine à peu près 500 calories par heure, et on vit le fameux « soi dans le présent ». Et ça, le jardin, je pense que tous vos invités ont dit ça ce matin, c'est être dans le présent. Et moi, je pense qu'il y a aussi une sorte de jouissance un peu primitive à regarder pousser un radis, une laitue, et de se dire, je suis un peu le maître de tout ça, quelque part. On maîtrise quelque part, sans le maîtriser aussi, du moins tant que les escargots, par exemple, restent loin.
Et pour vous, il y a quelque chose de quasiment sacré dans le geste de planter?
Oui, moi, c'est presque un maître zen, le jardin, qui s'exprime un peu. On peut faire un petit clin d'œil par la photosynthèse. Il vous apprend, vous l'avez abordé déjà, la patience. Il faut semer, il faut attendre et il faut espérer. Et ces trois mots, on les a plus aujourd'hui dans notre société. Et puis, il vous enseigne, vous l'avez dit aussi, l'humilité. Parfois, ça pousse pas, mais quand vous avez tout bien fait, et c'est pas grave, on a le droit, c'est le cas de le dire, de se planter au jardin. Et je vous rappelle que dans la ville, il faut désherber régulièrement. autour des plantes et si dans sa tête il faut aussi désherber parfois des pensées un peu noires, eh bien le jardin c'est la même chose, on désherbe parfois à la main. Pour moi c'est un peu aussi un refuge spirituel, hein, tout simplement. C'est un acte fort chargé de symboles, on met quelque chose en terre, on lui laisse faire sa vie et on l'arrose un peu quand on y pense. C'est un peu comme de l'amour, comme de la poésie, et puis un jour ça pousse. Et ça, c'est merveilleux.
Tiens, je vais vous faire dialoguer avec Éric Lenoir. Philippe Collignon parlait de mauvaises herbes. Vous, vous n'aimez pas trop ce terme de mauvaises herbes.
Philippe connaît par cœur mon jardin.
Je sais que vous vous appréciez en plus.
Oui, il est venu dans le jardin, il sait ce que je pense des mauvaises herbes, et d'ailleurs, oui. Il a vu à quel point ça servait de ne pas les considérer comme telles, et lui-même ne les considère pas comme telles.
Non.
Ça n'existe pas une mauvaise herbe, depuis quand une herbe serait une mauvaise?
C'est une herbe dont on ne connaît pas encore le bienfait qu'elle peut nous apporter.
Tiens, à propos de mauvaises herbes, je vous propose d'écouter l'écrivain et philosophe Gaspard Koenig dans L'Heure Philo en février 2025.
Hegel, qui est le philosophe de l'ordre, le philosophe de l'État, le philosophe de la domination et du pouvoir, il aime les jardins à la française, il aime, comme il l'écrit, les haies bien taillées. Proudhon, qui est le penseur de l'anarchie, de l'ordre spontané, eh bien, il dit à un moment donné, dans sa théorie de la propriété, ne vous échinez pas toujours à cultiver la terre, laissez pousser les chardons et les ronces. Voilà, et donc c'est très proudhonien, puisqu'en plus la ronce c'est un objet qui en lui-même un phénomène d'ordre spontané, puisqu'elle se marcotte, c'est-à-dire que la tige va dans la terre et puis se fait racine et repart. Et c'est pas étonnant, voilà, si Proudhon a de l'affection pour la ronce. Donc c'est amusant, et je me dis, ça c'est les philosophes, mais au fond on est tous comme ça, et peut-être que nos visions du monde, nos manières d'être, se reflète notre rapport ou à l'inverse notre non-rapport total à l'humus.
Cédric Angelbert, les mauvaises herbes sont impopulaires dans nos jardins, hein, ces plantes qui repoussent et qui gâchent nos compositions si bien ordonnées. Vous consacrez un papier aux mauvaises herbes dans votre hors-série de Philosophie Magazine.
Oui, alors c'est plus qu'un papier, c'est presque une réhabilitation de la mauvaise herbe, si je puis dire. Alors c'est Emerson qui disait effectivement qu'une mauvaise herbe est une plante dont on n'avait pas encore trouvé les vertus. C'est assez vrai, on le voit aujourd'hui dans toutes les tentations des jardins contemporains qui laissent quand même plus de place à ces herbes, ces bonnes ou mauvaises herbes. Et ce qui est intéressant...
Qu'est-ce qu'elle raconte d'un point de vue philosophique, ces mauvaises herbes?
C'est un espace aussi... Enfin, on a longtemps considéré qu'il y avait le jardin français, le jardin anglais, le jardin pittoresque. Et en fait, tout ça, c'est une vision un peu recomposée a posteriori, parce qu'en réalité, même dans un jardin à la française, par exemple à Versailles, il est très intéressant de voir que dans les haies, il y a 1000 activités qui se déploient. Et cet apparent ordonnancement bon pour l'œil révèle ou cache en réalité dans la vie. Ça, Sonia Fertchak pourra en dire plus que moi, mais se cache dans la vie des haies qui ont l'air bien taillées, une vie extraordinaire. Donc c'est intéressant de voir que sous l'ordre, il y a toujours un désordre qui pointe.
Sonia Fertchak.
J'aime bien cette idée-là.
Sonia Fertchak.
Oui, ça c'est sûr, c'est que le désordre des haies, il est à l'équilibre, il est merveilleux. Et on parlait des ronces, que seraient les haies sans les ronces? Et les ronces, elles nous apportent les murs et la confiture de murs, c'est quand même délicieux. Dans la réhabilitation, moi, ce que je trouve très intéressant et philosophique, vous posiez la question, Ali, dans la réhabilitation des mauvaises herbes, il y a cette idée que tout à coup, effectivement, c'est le jardinier ou le cultivateur qui les décrète mauvaises, mais évidemment qu'elles ne sont pas ontologiquement mauvaises. Et du coup, on regarde autrement chaque végétal, et on est amené à lui trouver ou non une beauté ou un intérêt. Par exemple, moi, je sais que c'est une plante envahissante, invasive, mais les balsamines de Balfour, moi, je les trouve très jolies et elles ont le goût de fleurir un coin complètement au nord d'une cour parisienne où rien ne pousse. Et tout à coup, je les trouve belles. Et donc, on regarde autrement. Et c'est là aussi, je trouve que le jardin est une éducation. Et je pense que c'est super d'emmener les enfants au jardin pour regarder autrement ce qui nous entoure, exercer notre regard, ce qui est si difficile dans la vie.
Éric Lenoir.
Oui, je voulais un petit peu appuyer là-dessus et de rappeler le luxe que l'on a de pouvoir se permettre de tolérer ce qu'on a appelé les mauvaises herbes. Quand on dépend d'un jardin, et je parle bien de dépendre d'un jardin, par exemple pour se nourrir, le rapport qu'on a au vivant devient tout de suite tout autre. C'est comment est-ce que je vais produire suffisamment de calories et qu'est-ce qui va m'en empêcher? Et le rapport à cette herbe sauvage devient très facile d'un point de vue philosophique quand on ne dépend pas de ça, et quand on a le nez dans le guidon à essayer de se nourrir, c'est tout de suite une autre histoire. Et je l'expérimente chaque jour, et j'essaye toujours d'en faire moins.
Tiens, juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas ce concept de jardin punk. À quoi il ressemble votre jardin, Éric Lenoir?
Alors ça dépend lequel, mais en général, là je vois des nuages de pollen passer dans celui qui est à ma fenêtre, donc ça vous donne une idée du nombre de graminées qui s'y trouvent et dans quel état elles sont. Il y a de la place pour tout en fait.
Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre, Éric Lenoir?
De ma fenêtre, je vois des tuyas qui ne sont pas taillés en haie et qui sont en train de devenir grands comme des séquoias. Je vois des berces spondyles, des achillées à feuilles tomenteuses. Je vois des houx qui poussent et qui vont me servir à protéger les arbres fruitiers des chevreuils qui peuvent entrer librement ici et qui ne s'en privent pas. Et c'est un endroit où j'ai juste fait des passages pour pouvoir circuler et où je fais en sorte que les arbres que j'ai plantés survivent. Impossible.
Philippe Collignon, ça vous donne une crise cardiaque, cette vision de ce jardin où il y a des mauvaises herbes, des ronces partout?
Le jardin d'Éric Lenoir, il n'y a pas des ronces partout non plus, mais c'est une sorte de jardin poétique baigné par le vent, donc c'est magnifique. Mais il y a quand même, Éric intervient quand même, il est quand même légèrement interventionniste dans son jardin, parce que vous parliez tout à l'heure de plantes invasives. Comme son nom l'indique, il y a aussi parfois une guerre au jardin, une guerre entre des plantes qu'on souhaiterait quand même maintenir, et puis des plantes qui sont invasives, comme les buddleia ou d'autres plantes, qui vont prendre toute la place. Donc il faut aussi avoir une intervention légère, comme parfois entre les deux conflits, il faut parfois trouver un accord entre l'invasif et ce qu'on voudrait d'esthétique. Donc il y a aussi ça c'est important. Mais le jardin d'Éric Lenoir, il est magnifique, hein. Moi j'adore, vu du ciel, vu de la terre, il est extraordinaire. Et puis moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'en fait on peut comprendre l'être humain en jardinant, en jardinant un potager, en jardinant un jardin ornemental, c'est-à-dire qu'on retrouve tout à l'intérieur, on retrouve la déception, la joie, l'humeur, l'attente, vraiment on retrouve vraiment l'être humain, on peut faire vraiment un parallèle psycho entre le jardin et son jardinier. Et puis c'est vrai que quand on rentre dans un jardin, on peut définir, je veux dire très légèrement, le portrait robot du jardinier qui cultive son jardin. Et ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que tous les jardins sont beaux, même lorsque des gens peignent des pneus recyclés en rouge, en bleu, etc. C'est intéressant parce que le jardin, avant tout, c'est une aventure humaine. Ok, c'est joli ou c'est moins joli, tout est subjectif, mais c'est une aventure humaine. Et je trouve ça magnifique de rentrer dans un jardin. C'est comme se rentrer un peu dans la tête de l'autre. Et là, la discussion, la conversation est toujours très intéressante. Moi, j'ai rencontré des centaines de jardiniers, des punks, des rigoureux, tout ce que vous voulez, et je trouve qu'ils ont un discours très sympa et qu'il y a une vraie passerelle, la passerelle entre tous ces jardiniers qui sont différents, c'est la vie, la joie de partager. Moi, je trouve que ça, c'est magnifique de partager. Moi, je suis dans un jardin ouvrier, dit ouvrier, un jardin familial. Il y a toutes les cultures, toutes les races, tous les niveaux sociaux. On partage, on boit du thé à la menthe, on partage la vie, et ça, c'est le principal dans un jardin, c'est on partage la vie.
Merci beaucoup Philippe Collignon. Je recommande trois petits livres pas chers qui se glissent dans la poche arrière du jardinier. C'est le petit guide du rosier, le petit guide du semis et le petit guide du jardin sans eau chez First. Merci beaucoup Philippe Collignon.
Merci à vous.
Il est 10h42, l'heure de retrouver la petite mythologie d'un objet du quotidien d'Éric Libiot.
Ne dit-on pas des objets inanimés?
Grand bien vous fasse.
Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant.
Ali Rebéi.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme?
Sur France Inter.
Éric Libiot.
Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous avez vu le film, mais dans La Mule, Clint Eastwood, réalisateur et acteur du film, joue un horticulteur, fauché et en faillite, obligé de passer de l'autre côté de la loi pour survivre. Alors, je vous passe tout ce qui se situe ensuite, mais à la fin, on le voit assagi et heureux, en train de cultiver littéralement son jardin. Dans La Kermesse de l'Ouest, Clint jouait un agriculteur, mais aussi dans José Welles sort la loi et Impitoyable, et dans ces deux films, il a rapidement échangé sa charrue contre un flingue. Et en 1997, Clint réalisait Minuit dans le jardin du bien et du mal, comme quoi Clint peut être aussi moraliste, si ce n'est philosophe. Alors moi, quand j'ai vu La Mule, je pensais que c'était le dernier film de Clint, qui avait alors 88 ans, mais non, il en a réalisé trois autres après. Son plus récent, Juré numéro 2, est sorti à l'automne 2024, là il y a 6 mois, et on peut le voir en ce moment à la télé. Il paraît d'ailleurs qu'il prépare un nouveau film, ce qui ne m'étonnerait pas. Conclusion logique, cultiver son jardin, maintien en forme. Le 30 mai dernier, Clint a fêté ses 95 ans. Bon anniversaire, avec quelques jours de retard, cher Clint. Et je profite de cette dernière chronique de la saison pour revisiter le jardin de Clint où les belles fleurs sont multiples, parfois à épines, avec tout de même 2 ou 3 navets de la part de ce potager. C'est un jeu de mots. Clint Eastwood, c'est le dernier des géants et pourtant il reste encore quelques cinéphiles qui voient en lui un amateur de débroussailleuse qui arrose à tout va, qui cisaille et qui tronçonne dès qu'il en a l'occasion. Et c'est vrai qu'à l'époque de l'inspecteur Harry, on le voyait désherber du criminel avant même qu'il ne repousse. Mais ça, c'était avant qu'on ne se rende compte qu'il était plutôt adepte du transplantoir. Alors le transplantoir, c'est une petite truelle individuelle utilisée pour creuser la terre lorsqu'elle est un peu sèche et faire des trous pour planter des graines. C'est d'ailleurs l'outil que Clint utilise à la fin de La Mule pour planter ses fleurs. Et c'est aussi un outil qu'il utilise comme métaphore dans Pale Rider, par exemple. Il plante une graine pour inciter les habitants d'un village à résister. Et dans Branco Billy, il se bat pour faire pousser son cirque ambulant. Dans Gran Torino, il est un fumier sur lequel va pousser une fleur urticante. Dans Jugé coupable, il cisaille la peine de mort. Et dans L'homme des hautes plaines, il venge son frère au glyphosate. Et sur la route de Madison, il se prend finalement un râteau, alors que son amour se bat contre ses épines et que dans la salle, tout le monde rêve d'une fin fleurie qui n'arrivera jamais. Parmi les grands thèmes clintiens, il y a la transmission et la trace qu'on laisse sur terre ou dans la terre. Car cultiver son jardin, c'est aussi mesurer l'inné et l'acquis, la nature et la culture, sans toujours savoir laquelle prend le pas sur l'autre. Alors la dernière fois que j'ai rencontré Clint, c'était pour American... Je l'appelle Clint, hein, parce que bon, oui, bah, lui et moi, on est quand même très copains.
Vous l'avez déjà rencontré à plusieurs reprises.
Voilà, hein. C'était pour American Sniper en 2014, et il s'est épanché plus que d'habitude, ce qui n'est pas quand même très courant chez lui. Il avait 84 ans à l'époque, et sans que je m'y attende, il m'a dit ça. Qui peut se dire entièrement bon, inlassablement bon, pendant toute son existence? Personne. J'espère avoir fait du mieux que je pouvais sur Terre. Oui, je pense avoir fait au mieux, mais comment savoir? Comment savoir, cher Clint? Eh bien, en se promenant dans votre jardin.
Et je rappelle, Éric Libiot, que vous avez publié chez Jean-Claude Lattès, Clint et moi.
France Inter.
Oh, écoute, non, 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 non. Je veux dire, dans un complexe atelier de ce standing, ton arbre, tu lui donnes une forme.
Grand bien vous fasse.
Tu le laisses pas comme ça, moitié en couille ou en ogive, que ça veut rien dire. C'est pas possible, c'est pas sympa pour lui.
Pas
c'est...
du tout. Non. Allez, Rébéi.
Et vous avez sans doute reconnu Catherine et Liliane. Et ce matin, pourquoi les jardins contribuent à notre bonheur, qu'on y jardine ou qu'on les contemple, avec le hors-série de Philosophie Magazine. Et nous accueillons Corinne. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Vous êtes art-thérapeute dans un hôpital psychiatrique et vous utilisez le jardin comme outil thérapeutique.
Oui.
Racontez-nous.
Alors c'est une parcelle que nous avons eu la chance d'avoir au sein de l'hôpital. Mmh. Et on y cultive tant bien que mal des plantes. Mmh. On a la chance d'avoir 3 énormes actinidia qui nous permettent de fournir des récoltes de kiwis assez importantes, avec lesquelles on fait des confitures. Et donc on emmène les patients 2 fois par semaine sur 1h30, 2h, selon la météo, afin d'entretenir, de s'occuper, de nourrir les plantes qui sont mises. Il y a aussi beaucoup de fleurs. Et c'est vraiment un moment et un espace où les patients se sentent apaisés, ont l'impression d'être utiles à quelque chose. Ça apprend aussi la temporalité, l'échec, quand ça ne marche pas, mais que ce n'est pas grave en soi, que tout peut être recommencé et que... Enfin voilà, c'est vraiment un espace où les patients aiment aller et se sentent très bien.
Cédric Angelbert,
Oui, c'est intéressant. Ce sont des usages qui se développent. Je sais que Cynthia Fleury, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, et le designer Antoine Fenoglio, qui avait fait cette charte du Verstollen, donc qui était 10 points pour vivre mieux dans une société du soin, en quelque sorte, ont développé ces points-là dans des jardins. Ils ont créé un jardin du Verstollen. Et par ailleurs, ils développent aussi ce type de jardin de soins dans des espaces comme les hôpitaux psychiatriques, par exemple. Donc c'est vrai que ce sont des pratiques qui se développent.
Merci beaucoup, Corinne, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Alors Cédric Angelbert, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce fameux jardin zen. Moi, j'ai appris un tas de choses dans votre hors-série. J'ai appris par la plume de Emmanuel Marès, hein, qui est chercheur en histoire des jardins japonais, que le jardin zen ne correspondait à aucune réalité historique et que, en fait, il ne fallait pas confondre le jardin japonais et le jardin zen. Aidez-nous à y voir plus clair.
Alors, il va même un peu plus loin que ça, disons. Et, en gros, le jardin zen n'existe pas. Le jardin japonais, disons que c'est une commodité.
Disons que le jardin japonais, c'est un jardin tout en courbe et en arrondi, fait de mousse et de pierre. Un jardin très symbolique qui invite notamment à la méditation. Pour le dire très, très, très vite.
Voilà, pour le dire vite. En gros, au départ, le jardin japonais, c'est d'abord autour de la pierre. C'est quand même autour de ça qu'il est construit. Donc déjà, c'est intéressant pour nous parce que c'est pas forcément la végétation, le jardin, c'est aussi la pierre en fait partie. Et effectivement, il y a un contraste entre les lignes droites du bâtiment et les courbes du jardin.
Avec une présence de l'eau importante, l'eau qui s'écoule du haut vers le bas, et comme le rappelle Emmanuel Marès, de la cascade dans la montagne par une rivière qui traverse les vallées avant de se jeter dans la mer. Et cette symbolique-là, on la retrouve dans le jardin.
Ça, absolument. Alors, effectivement, ça mêle des influences taoïstes, confucéennes. Enfin, c'est un lieu de croisement de plusieurs influences, le jardin japonais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord un jardin qui est conçu pour être vu depuis le bâtiment, depuis l'intérieur. En réalité, le terme qu'on a employé pour désigner le jardin est une zone assez vague, plutôt sacrée, qui constitue l'espace dans lequel on n'est pas, dans lequel on est chaussé, à la différence de l'espace dans la maison dans lequel on est déchaussé. Donc c'est ça au départ, c'est cette zone-là dans laquelle on a plein d'activités de faire la cuisine notamment, ce genre de choses. Ah, et ensuite, il y a une construction de l'idéal du jardin japonais qui se fait un petit peu de façon nationaliste à la fin du 19e siècle, où l'on exporte en quelque sorte le jardin japonais comme on le ferait aujourd'hui dans une ère de soft power, c'est-à-dire qu'on a une idéalisation de ce que représente le jardin japonais.
Avec une présence de la mousse assez importante, la mousse qui est associée à l'idée de calme et d'apaisement, mais c'est assez récent.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors en fait, c'est parce qu'effectivement, il y a des bâtiments qui ont été détruits et ensuite, il y a de nouveaux jardins qui se sont créés, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le jardin de gravier, le jardin de mousse, le jardin n'ont été que des étapes du jardin japonais. Il y a une période, et Claude Monet s'en est inspiré, il a ramené d'ailleurs des fleurs pour Giverny, où c'était une explosion de couleurs et de fleurs de toutes sortes. Donc on voit bien que là, la notion uniforme de jardin japonais ne convient pas, et la notion de jardin zen, elle, est même en fait la création d'une journaliste américaine dans les années 30, vers 1935, qui, ayant vu ça, le rapporte et le décrit de cette façon-là en parlant de jardin zen. Mais en fait, c'est une reconstruction assez tardive.
Quoi qu'il en soit, la grande particularité du jardin japonais, c'est qu'il s'agit d'un parcours initiatique, et je cite à nouveau Emmanuel Marès, on laisse à l'extérieur le quotidien, le profane, et on entre dans un autre espace, un autre temps, quelque chose de sacré, d'extraordinaire.
Alors ça, c'est effectivement spécifique au jardin japonais, mais en réalité, tous les jardins sont des espaces clos. Donc il y a déjà quand même cette idée qu'il y a une frontière, une frontière se définit dans le jardin, et en l'occurrence dans le jardin japonais, il y a effectivement cette frontière entre l'espace intérieur, je le disais, où on est déchaussé, l'espace extérieur où on est chaussé, et cette déambulation qui est créée en fait quand on invente les maisons de thé. C'est à ce moment-là où l'espace qui était prévu pour être vu depuis la maison devient un espace de déambulation, mais c'est une transformation finalement du jardin japonais.
Éric Lenoir, promoteur du jardin punk.
Oui, le jardin. Alors, quand j'entends le jardin est un espace clos, je m'inscris en faux. C'est historiquement un espace clos dans la construction qu'on a faite, mais ça peut carrément être autre chose. Et justement, la reprise de possession des communs, de l'espace, des espaces publics, pas forcément autorisés pour faire des jardins, entre vraiment dans cette idée qu'un jardin n'a pas à être clos et surtout pas. C'est l'une des façons de faire du jardin.
J'aimerais qu'on termine avec l'un des plaisirs liés au jardin, c'est le plaisir d'un certain silence, Martine Lafont, sauf les jours où l'on tond ou où l'on taille dans tous les sens, sur le silence, une certaine qualité de silence que l'on retrouve dans le jardin.
Oui, oui. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir un jardin à la campagne et donc il y a des voisins qui ne tournent pas toutes les trois minutes, donc ça ferait plaisir à Eric. Et c'est vrai que c'est le silence, mais c'est un silence, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en début de l'émission, c'est pas un silence qui est avec des sons, bien sûr, quoi, mais qui fait... le bruit n'existe pas, en fait. Et c'est justement ça qu'on aime dans le jardin, c'est que entre le son du vent, les oiseaux qui vont, viennent, tout ce qui peut se passer, le craquement des arbres...
Les abeilles.
Il y a vraiment cette sérénité qu'on retrouve, justement, parce que, j'allais dire, on n'est pas dérangé, on peut être dans son jardin secret. On peut être à soi-même. Et c'est ça qui me plaît, moi, dans le jardin, c'est ce silence. Et j'allais presque dire cette solitude qu'on peut avoir quand la nuit tombe et qu'on reste au jardin. Et ben on a l'impression qu'on est seul au monde. Et c'est ça, c'est formidable.
Cédric Angelbert.
Oui, effectivement, ça faisait partie des 10 points de Cynthia Fleury dans son jardin et d'Antoine Fenoglio. Le silence en faisait partie, mais aussi l'horizon. Enfin, ce sont des espaces où, effectivement, on renoue peut-être avec une forme de soin du monde et donc de soin de soi.
Sonia Ferchak.
Moi, je ne suis pas très d'accord sur le mot de silence, parce que justement, moi, ce que j'aime dans le jardin, ce sont les bruits du jardin.
Oui, 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 non, mais Sonia, je parlais de silence dans le sens...
Oui, pas le, on entend, le silence,
voilà, on n'entend pas les bruits, on entend les sons.
On n'entend pas le bruit de la circulation, le bruit, voilà, des bruits qui peuvent agresser l'oreille. Évidemment, oui, on entend des choses dans le jardin, bien sûr.
Oui, et justement, ces bruits du jardin nous interpellent. Vous évoquiez à Lille les abeilles. En ce moment, les abeilles vont sur les vignes vierges. Et j'aime bien cette idée d'être soudain happée. Je me dis, ah tiens, quel est ce bruit? Et oui, c'est la symphonie des abeilles. Et elles sont toutes sur la vigne. Ça dure un jour ou deux. Et c'est un bruit extrêmement, extrêmement agréable.
Mmh. Elles sont dans les tilleuls en fleurs. Et c'est vrai
qu'ils sentent si bon.
Formidable.
Tiens, pour terminer, en quelques mots, un jardin qui vous rend particulièrement heureux, on a compris, c'est le vôtre, Martine Lafont.
Ah, tout à fait.
Sonia Ferchak.
Oui, parce que justement, je rejoins un petit peu Eric, c'est que moi, quand je vois la profusion des choses, je me trouve un peu ridicule quand je plante trois géraniums, alors que les boutons d'or au printemps ont envahi tous les espaces, donc on sent un peu ridicule. Mais ce que j'aime aussi dans le jardin, dans ce jardin et dans tous les jardins, c'est cette notion d'éphémère. Oui. C'est-à-dire la beauté est éphémère et prend le temps. Hein, Ronsard est là, Montaigne est là.
Et on peut parler même, pour terminer, de plénitude de l'éphémère. Merci beaucoup Martine Lafont. Merci Sonia Ferchak, on vous retrouve dans le Philomag. Merci beaucoup. Éric Lenoir, il est où votre jardin punk? Où est-ce qu'on peut le visiter?
Alors, il y a celui qui est dans Lyon, mais bon, ça se visite, c'est très compliqué, il faut que je sois là. Mais par contre, j'invite tout le monde à pousser les projets de classe dehors qui font exister des jardins là où ils n'existent pas. Et moi, c'est le jardin qui me rend le plus heureux aujourd'hui, c'est les classes dehors où je vois des gamins investir des jardins.
Merci beaucoup Cédric Angelbert. Le hors-série de Philomag, Cultiver son jardin, est disponible en kiosque ou sur le site de Philomag et vous reconnaîtrez la couverture. C'est signé Catherine Maurice et c'est absolument superbe.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.